Il est 6h à Paris, 9h à Islamabad, 9h30 à New Delhi. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale et je vous laisse en compagnie de Jeanne Bartoli.
Et bonjour Vincent, bonjour à tous. C'est d'ores et déjà une escalade majeure entre les deux puissances nucléaires. L'Inde a lancé cette nuit des frappes contre le Pakistan. Le Pakistan affirme avoir riposté. Nous sommes en Inde avec Combastin pour les détails dans un instant, alors que le patron de l'ONU affirme que le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre les deux pays. Dans ce journal aussi, le premier vote attendu ce soir au Vatican pour désigner le successeur du pape François. Les cardinaux électeurs sont arrivés au Vatican pour le début du conclave. Aujourd'hui, notre envoyé spécial sur place s'est entretenu avec l'un d'entre eux, Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, qui va assister à son tout premier conclave. Dans ce journal aussi, Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, attendu ce midi à Paris, chancelier déjà fragilisé par la journée chaotique d'hier et l'échec d'un premier vote pour le nommer. Et puis, autre visite, toujours à Paris, celle d'Ahmed Al-Shara, président de la transition syrienne. La droite et l'extrême droite dénoncent sa venue. Et puis, un match déjà entré dans l'histoire du football. Hier soir, l'Inter Milan s'est qualifié au bout du suspense face au FC Barcelone 4-3. L'escalade était redoutée depuis l'attentat survenu le 22 avril dernier au Cachemire sous contrôle indien et attribué par l'Inde au Pakistan. L'Inde a donc bombardé cette nuit des cibles au Pakistan, cibles présentées comme des infrastructures terroristes. Le Pakistan annonce la mort de 8 civils et dit avoir abattu 5 avions de combat indiens. L'Inde a pour sa part fait état de la mort de 3 civils sur son territoire. Bonjour Combastin.
Bonjour.
Correspondant d'RFI en Inde, comme le bilan mais aussi l'ampleur de ces opérations reste encore floue ce matin, les deux ennemis publient des informations contradictoires.
Oui, et beaucoup d'Indiens se sont réveillés avec la nouvelle de ces frappes qui ont eu lieu pendant la nuit. La riposte, elle était attendue, mais l'armée indienne laissait planer le doute sur son timing et ses modalités, alors qu'il règne ici, depuis l'attentat au Cachemire, une ambiance de ferveur nationaliste et de désir de revanche. Vous l'avez dit, donc selon l'armée, ce sont 9 camps d'entraînement liés à des organisations terroristes qui ont été frappés au Pakistan, dont le groupe Lashkar-e-Taiba, celui que l'Inde juge responsable des 26 morts au Cachemire. L'Inde aurait frappé depuis son espace aérien et avance le chiffre de 80 terroristes tués dans les bombardements. Elle insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une riposte proportionnée, graduée et qu'aucun site militaire pakistanais n'a fait partie des cibles. Mais ça ne suffit pas à calmer les craintes d'une escalade et d'une guerre, puisque le Pakistan déplore, lui, des morts civiles, parle d'une déclaration de guerre à laquelle il va riposter. Et d'ailleurs, des affrontements sont en cours le long de la frontière contestée avec l'Inde dans le Cachemire, avec là aussi plusieurs morts civiles déjà et des habitants qui fuiraient devant la perspective d'une guerre de forte intensité. Enfin, l'Inde vient de reconnaître avoir perdu 3 avions dans les attaques de cette nuit.
Combastin, pour ces précisions, merci. Vous étiez en direct de Bangalore. Le Pakistan doit convoquer dans une heure maintenant son comité de la sécurité nationale. On va suivre évidemment la situation. Du côté des réactions internationales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclare que le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre les deux pays. Donald Trump a lui dit espérer que les affrontements s'arrêtent très rapidement. Nous serons au Pakistan dans le prochain journal avec Martin Guèze. On évoquait à l'instant Donald Trump, le président américain, qui déclare que 3 des otages encore retenus à Gaza sont décédés, que 21 autres sont eux encore en vie. De son côté, le Hamas affirme que des négociations pour une trêve avec Israël n'ont plus aucun sens, alors qu'Israël a dévoilé en début de semaine un plan d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement massif de la population. C'est un rituel codifié, millimétré même, qui va débuter dans quelques heures maintenant au Vatican, le jour J pour le conclave qui doit désigner le successeur du pape François plus de 2 semaines après sa mort. 133 cardinaux électeurs venant de 70 pays, un record, sont attendus. Ils assisteront en premier lieu dans la matinée à une messe. Notre envoyé spécial au Vatican, Nicolas Rocca, a pu recueillir les dernières paroles de l'un de ces cardinaux électeurs, Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui va assister à son tout premier conclave.
Sur la place Saint-Pierre, impossible de le rater. Vêtu de sa tenue noire et rouge de cardinal, il est cerné par les journalistes, s'arrête pour tracer des signes de croix sur le front des passants qui lui demandent des photos. Il nous emmène dans une salle à proximité quelques heures avant de se rendre à la résidence Sainte-Marthe où il passera le conclave.
J'ai déjà porté mes bagages. Ils sont déjà là-bas, ils sont passés au scanner pour s'assurer qu'il n'y avait aucune électronique dedans. Voilà, comme on n'aura pas de téléphone, il y aura même un service pour nous réveiller si on a besoin de réveil. C'est des choses toutes bêtes, mais on n'y pense plus.
Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de votre premier conclave ?
Écoutez, je me sens très très serein, je ne sais pas pourquoi. L'étape pour laquelle je ne suis pas encore prêt, c'est le moment où on va avoir élu l'un d'entre nous. On est tous des hommes, et tout d'un coup, il y en a un. Il va paraître en blanc, et cet homme ne s'appartiendra plus, sa vie va complètement changer. Le Seigneur a choisi un homme pour son Église, quoi. Alors ça, c'est vertigineux.
S'il ne dévoile évidemment pas son choix, il nous confie tout de même un critère.
J'aurais du mal à voter pour un cardinal dont je n'ai pas senti à un moment l'adéquation entre la personne et sa parole, et qu'il incarne. Une parole, une voix, c'est notre voix, quoi.
Une voix qui devra convaincre au moins 89 cardinaux pour se voir confier les rênes de l'Église catholique. Nicolas Roca, Rome, RFI.
Et dans le détail, le compte à rebours débutera en début d'après-midi avec l'entrée en procession des cardinaux dans la chapelle Sixtine. À l'isolement drastique, aucun téléphone portable ne sera autorisé. C'est ce soir qu'aura lieu un premier vote, premier tour qui sert en général à jauger les forces en présence. Il est peu probable que la majorité des deux tiers, 89 voix, soit déjà atteinte lors de ce premier vote. À peine nommé, déjà fragilisé, Friedrich Merz se rend, comme le veut la tradition, à Paris. Aujourd'hui, pour son premier déplacement à l'international, il rencontre ce midi Emmanuel Macron après une journée rocambolesque hier. Friedrich Merz, qui a eu besoin d'un deuxième vote au Bundestag pour se faire élire chancelier. Dans une interview, il promet d'être un chancelier très européen et dit vouloir tout faire pour regagner la confiance des électeurs d'extrême droite. Autre déplacement, toujours à Paris, celui du président syrien par intérim, Ahmed al-Sharaa, qui sera reçu dans l'après-midi par Emmanuel Macron. Premier déplacement dans l'Union européenne. La droite et l'extrême droite française critiquent vivement l'invitation faite à l'ancien dirigeant du groupe islamiste Ayad Tahrir al-Sham. La présidence française, elle a balayé toute naïveté, assurant connaître le passé de certains dirigeants syriens. Cette visite est en tout cas suivie de près à Damas, où les attentes sont fortes, notamment chez les jeunes. Reportage de Mohamed Erami.
Au cœur de Damas, dans un café proche de la place des Omeyyades, quelques jeunes discutent avec attention de la visite européenne. Parmi eux, Jamal, 29 ans, espère avant tout une forme de reconnaissance.
Cette ouverture de la Syrie à l'international et en particulier à l'Europe est vraiment une excellente nouvelle pour le pays. C'est même un moment historique. J'espère que de bonnes relations pourront se nouer et qu'elles seront bénéfiques pour les deux parties.
À une autre table, Abdul, 27 ans, veut croire à un changement de regard. Pour lui, cette visite est surtout l'occasion de sortir d'une image figée associée à la guerre et au chaos.
Je souhaite le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie ainsi qu'une amélioration des vols internationaux et commerciaux. Tout cela signifierait la levée des sanctions économiques et marquerait le retour d'une Syrie telle qu'elle était avant la guerre. Si notre pays retrouve sa dignité et sa respectabilité, alors les autres nations nous traiteront avec plus de respect, y compris à l'étranger. J'en suis convaincu.
Dialogue politique, ouverture économique, reconnaissance diplomatique, les attentes sont multiples, mais ici c'est d'abord un besoin de considération qui s'exprime. Avec une certitude partagée, l'avenir de la Syrie se jouera aussi à l'international. Mohamed Erami, Damas, RFI.
À l'écoute d'RFI, 6 heures passées de 9 minutes. Au Niger, à présent, les suites de la perquisition lundi du siège d'Orano et de ses filiales. Pas beaucoup plus de précisions sur le cadre dans lequel cette perquisition de plusieurs heures a été menée par des agents du renseignement extérieur nigérien. La DGDSE a emmené le directeur d'Orano Niger ainsi que du matériel. Une perquisition qui intervient en tout cas dans un contexte de relations très compliquées entre le Niger et le groupe groupe français depuis le coup d'État de juillet 2023. Les précisions avec Magali Lagrange.
Le personnel d'Orano, de ses filiales au Niger, n'a pas pu accéder au bureau de Niamey hier. Au lendemain de la perquisition de la DGDSE, les locaux étaient sous-scellés. Le directeur d'Orano Mining Niger, Ibrahim Kourmo, toujours détenu par la sécurité extérieure nigérienne. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec notre représentant sur place, indique le géant français de l'uranium. Orano dit ne disposer que d'informations très limitées sur la situation au Niger, après avoir perdu le contrôle opérationnel de ses filiales, dont la Somaïr, également détenue à 36% par la nigérienne Sopamine. Plus de 1000 tonnes d'uranium qui ne peuvent plus être exportées via le Bénin sont actuellement stockées dans la zone. Depuis sa prise de pouvoir, le CNSP revendique sa souveraineté sur les ressources minières. Dans le nord, des organisations de la société civile demandent une exploitation plus bénéfique pour les populations locales. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs annoncé la semaine dernière leur intention de porter plainte contre Orano, notamment pour crimes environnementaux. D'autres assignent la direction de Cominac en justice suite à la suspension des travaux de réaménagement du site. Nous avons lu cette information dans les médias et sur les réseaux sociaux sans avoir été officiellement informés, commente le groupe Orano.
Hier soir, le groupe s'est dit très préoccupé par la situation, n'ayant toujours pas pu entrer en contact avec son représentant au Niger. L'actualité, c'est aussi le président chinois Xi Jinping attendu en Russie dans la journée, déplacement qui doit durer jusqu'à samedi à l'invitation de Vladimir Poutine et qui coïncide avec le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, célébrée en Russie le 9 mai. Sur le programme précis de cette visite, les précisions depuis Pékin avec Léa Broderstone.
La Chine bénéficie de l'énergie russe bon marché et d'une Russie affaiblie, de plus en plus dépendante de Pékin. À l'occasion de la visite de Xi Jinping à Moscou, plusieurs accords de coopération devraient être signés dans les domaines du commerce, de l'énergie et peut-être même de la défense. C'est la troisième visite du président chinois en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Officiellement neutre, Pékin continue pourtant de renforcer ses liens économiques avec Moscou. Composant pour l'industrie de l'armement, hausse des échanges commerciaux, un soutien indirect pour atténuer les sanctions occidentales. Mais le contexte est tendu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Chine d'avoir livré armes et poudre à canon à la Russie, accusation que Pékin dément fermement. Et pour les analystes, la présence de Xi Jinping à Moscou envoie un message clair. La Chine ne lâchera pas la Russie. Elle entend jouer un rôle clé d'équilibriste dans un monde multipolaire, engagé avec le Sud global et les structures de pouvoir alternatives comme les BRICS, en dehors des cadres dominés par l'Occident. Claire Broderst, Pékin, RFI.
Et en amont de cette visite, l'Ukraine a lancé hier une attaque massive de drones contre la Russie, ciblant notamment Moscou, avant l'arrivée de dizaines de dirigeants étrangers, dont Xi Jinping. La Russie affirme qu'une dizaine de régions a été visée, alors que côté ukrainien, une frappe de missiles russes a tué 3 personnes, blessé 11 autres, dont des enfants dans la région de Soumy, confrontés à une recrudescence des frappes. En France, 2/3 des femmes estiment être confrontées au sexisme dans le travail. C'est ce que révèle le baromètre sur le sexisme au travail réalisé par l'Association française des managers et de la diversité. Les formes de sexisme au travail qui sont multiples, Louis Cal.
Se faire appeler « ma jolie » dans les couloirs, supporter la remarque d'un collègue si on porte une robe ou un peu de rouge à lèvres, c'est le quotidien d'une majorité de femmes au travail. 7 femmes sur 10 ont déjà entendu ou été l'objet de blagues sexistes. Et au-delà des remarques, le sexisme s'invite aussi dans les réunions. Les femmes sont moins écoutées, moins considérées que leurs collègues hommes, et 1/3 d'entre elles ont déjà été interrompues par des hommes pendant une prise de parole. Toutes ces situations entraînent un phénomène, une stratégie de l'évitement. Par exemple, on va éviter de porter certains vêtements, prendre moins la parole en public, voire même tout faire pour ne pas se retrouver seul avec certaines personnes. Côté rémunération, les inégalités de salaire persistent également. Et chez les hommes, certains refusent de comprendre. 1/2 estime par exemple que le partage des tâches ménagères et parentales n'a aucun impact sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Une statistique intéressante quand on sait que les femmes sont toujours majoritairement en charge du ménage, de la cuisine et des enfants à la maison.
Lou et Cal. Allez, enfin du très grand football hier soir, l'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions à l'issue d'un match d'anthologie face au FC Barcelone. 4-3, score final après prolongation. Ce soir, place au PSG qui a rendez-vous, lui aussi avec son histoire. Les Parisiens affrontent Arsenal au Parc des Princes après leur victoire 1-0 à l'aller. Match à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
6h14 à l'écoute de la Radio du Monde. Vous restez avec nous dans un instant. Reportage en Italie. Notre correspondante est partie à la recherche des survivants d'un naufrage meurtrier en Méditerranée. C'était en mars 2024. Nous sommes aussi à Budapest ce matin dans l'appel correspondant pour évoquer l'un des favoris à la succession du pape François, un cardinal hongrois, discrètement mais efficacement soutenu par Viktor Orban. L'invité culture, le réalisateur algérien Karim Moussaoui qui signe son deuxième long métrage L'effacement. Et puis le conseil santé, comme tous les matins, ce sera avec Caroline Paris. Retour donc à présent sur l'un des nombreux naufrages qui coûtent la vie chaque année à des milliers de migrants en Méditerranée. Le 13 mars 2024, le navire de l'ONG SOS Méditerranée mettait le cap sur un bateau en bois qui lui avait été signalé totalement par hasard. Les sauveteurs vont tomber sur un autre bateau, un canot pneumatique qui dérivait depuis 7 jours. À son bord, 24 personnes, environ 65 ont péri. Un rapport des militants d'Alarme Faune, une ligne téléphonique d'urgence aux migrants, met en cause les gardes-côtes italiens mais aussi l'agence européenne Frontex. En Italie, notre correspondante Cécile Debarge a tenté pour RFI de retrouver les survivants de ce naufrage. Reportage.
C'est la deuxième nuit que la situation commence à se dégrader. Les vagues sont énormes, le moteur ne fonctionne plus depuis plusieurs heures, le bateau pneumatique dérive au large des côtes libyennes et se remplit d'eau qu'il faut écoper sans cesse. Seules les lumières d'une plateforme pétrolière éclairent la nuit noire. Certains passagers ont des hallucinations.
Il disait « je vais marcher, me mettre debout et monter dans la voiture ». Il délirait, mais à ce moment-là, personne n'était mort encore.
Ali a 17 ans lors du voyage. Il est gambien. Cette traversée, dit-il, c'est son premier face-à-face avec la mort. Dès le deuxième jour, il n'y a plus rien à manger et de l'eau de mer comme seule boisson. À partir du quatrième jour, les morts s'accélèrent.
Certains sautaient dans l'eau, mais c'était eux qui voulaient le faire. Personne ne les a jetés. Parfois, ils voyaient un bateau au loin et sautaient à l'eau pour le rejoindre.
À quelques mètres de lui, de l'autre côté du bateau, Moudou, 21 ans, reste lui uniquement concentré sur son objectif, atteindre l'Europe. C'est la deuxième fois qu'il tente de monter à bord d'un bateau après que le premier a coulé à quelques mètres de la plage du départ en Libye.
Deuxième fois,
j'ai subi beaucoup de tortures, beaucoup de problèmes. Alors ce qui fait que au deuxième tentative, il fallait que je parte.
Comme Ali, il essaie de ne pas dormir ou le moins possible et de ne penser qu'à rester en vie.
Moi, j'ai eu un vécu très difficile. J'ai vécu en Casamance au Sénégal, dans la zone la plus difficile. À 5 ans, je me suis débarrassé de ma mère. J'ai toujours travaillé seul, voilà, donc cette force-là m'a donné cette énergie.
Au total, 23 personnes ont survécu, des Gambiens, Maliens et Sénégalais. Ils vivent aujourd'hui en Italie, où ils attendent leurs papiers, et pour l'un d'entre eux en Espagne. Tous ont refusé de reparler de ce voyage et ont demandé à Moudou de parler en leur nom à tous.
La partie la plus importante pour lui, c'est de raconter vraiment la situation de tous ceux qui sont perdus en mer, qui sont morts, qui ne sont pas arrivés. C'est des personnes qui étaient vraiment chargées d'une mission, d'un objectif, pour apporter espérance à leur famille et tout. Et malgré tout ça, ils ne sont pas arrivés.
En 2024, au moins 2475 personnes migrantes sont mortes en Méditerranée et plus de 500 depuis le début de l'année. Cécile Debarge, Ancône, RFI.
Place à l'appel correspondant, ce sera sous les ors et les marbres de la basilique Saint-Pierre de Rome tout à l'heure. Les cardinaux célèbrent ce matin la messe précédant le processus d'élection du pape, le fameux conclave qui s'ouvre donc à Rome en présence de 133 cardinaux électeurs. Et comme à chaque élection, eh bien il y a des favoris. Parmi eux, le cardinal Peter Erdős, 72 ans, conservateur modéré et pragmatique. Sa candidature a été très soutenue par le premier ministre hongrois Viktor Orban. Florence Labruyère, vous êtes avec nous en ligne de Budapest. Bonjour.
Bonjour.
Comment Viktor Orban a-t-il fait la promotion de ce cardinal hongrois ?
Eh bien, contrairement à Emmanuel Macron, dont le voyage à Rome n'est pas passé inaperçu, notamment aux yeux de la presse conservatrice italienne, hein, qui a accusé le président français de s'incruster dans le conclave, Viktor Orban a mené une diplomatie beaucoup plus discrète. Il a mis en place, il y a plusieurs années, une stratégie pour accroître les chances du cardinal hongrois.
Alors concrètement, en quoi consiste cette stratégie, Florence ?
Alors, Viktor Orban, qui se dit chef d'un gouvernement chrétien, a lancé en 2019 un programme pour venir en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Par exemple, au Nigeria et au Burkina Faso, la Hongrie vient à la rescousse des familles qui ont fui les attaques de Boko Haram. Budapest envoie des médecins dans les camps de réfugiés et finance la recherche de puits. En Irak, le gouvernement hongrois soutient la reconstruction des églises et des écoles. Et puis en Éthiopie, il aide le clergé chrétien local dans l'assistance aux victimes de violences. Mais c'est là où c'est intéressant, le gouvernement Orban ne se contente pas d'envoyer de l'argent, il invite régulièrement les cardinaux de ces pays à Budapest. Et quand ces prélats viennent en Hongrie, ils voient le Premier ministre et ils rencontrent aussi le primat de Hongrie, le cardinal R2.
Et c'est évidemment, Florence, pour le gouvernement hongrois, une manière de tisser des liens avec ces cardinaux étrangers dont certains sont des électeurs.
Oui, et un autre événement a permis à Viktor Orban de mettre en avant son candidat, c'est le congrès eucharistique mondial qui a eu lieu à Budapest en 2021. La Hongrie avait posé sa candidature pour accueillir cet événement qu'elle a financé à hauteur de 85 millions d'euros. Et ça a été une occasion rêvée pour le cardinal R2, qui est un théologien respecté, de briller, de se faire mieux connaître et de nouer des liens avec ses homologues. Et c'est important car beaucoup de ces cardinaux électeurs venus des quatre coins du monde, qui vont voter aujourd'hui, ne connaissent pas les candidats.
En cas d'élection d'un pape hongrois, en quoi cela profiterait à l'avenir à Viktor Orban ?
Viktor Orban veut jouer un rôle international. Il aspire à être le pionnier du populisme dans le monde. L'élection d'un pape hongrois serait un trophée pour lui. Ça couronnerait sa stratégie. Viktor Orban présenterait cela comme un succès et ce n'est pas négligeable à un an des prochaines élections.
Florence Labruyère, en ligne avec nous de Budapest, c'était l'appel correspondant. Et l'invité culture ce matin, le réalisateur algérien Karim Moussaoui. Il signe son deuxième long métrage, L'Effacement, l'histoire de Reda qui semble avoir tout pour lui. Fils de la haute bourgeoisie algéroise, il travaille dans la plus grande entreprise d'hydrocarbures du pays, dirigée par son père. Pourtant, derrière ce vernis social se cache un jeune homme sans contour, façonné littéralement par la volonté paternelle. Karim Moussaoui est au micro d'Elisabeth Lequéry.
Karim Moussaoui, bonjour.
Bonjour.
Le cœur de l'effacement, c'est le rapport entre Reda, donc un jeune Algérien, et son père. De l'extérieur, on pourrait dire qu'il se laisse complètement esclavagiser. En réalité, Reda, il est dans une sorte de toile d'araignée d'obligations visibles et invisibles, dites et non dites. C'est ça qui vous a donné envie d'adapter le roman de Samir Toumi ?
Oui, tout à fait. C'est un film qui parle d'un jeune homme qui tente de faire son devoir de fils digne de son père et qui d'être un fils parfait. Et en faisant ça, il oublie. Il n'apprend jamais qui il est réellement.
Au cœur du roman, il y a ce moment où Reda va se regarder dans le miroir et ne plus se voir.
Il perd son reflet.
C'est une métaphore puissante.
Oui. Parce qu'à un moment donné, on est un peu seul avec soi-même. Mais Reda, il n'a jamais eu cette possibilité, voilà, de mener ces expériences-là de la vie qui sont toutes banales et toutes simples.
Facelo. Yo. Dersh aller. Wadda yahdar. Bssah nas mlah.
Karim Moussaoui, l'effacement se situe dans la grande bourgeoisie d'Alger et pourtant on a le sentiment que beaucoup de jeunes en Algérie pourraient s'y reconnaître, dans ce poids patriarcal qui...
Oui, pas que, mais je pense que ça c'est le propre de toutes les générations qui sont amenées à un moment donné à remettre en question certaines valeurs, revoir la manière de faire de ce qu'on leur a légué. Et je pense que c'est pas propre à l'Algérie ou à cette jeunesse algérienne, je pense que c'est c'est le cas pour toutes les générations.
Donc Reda va subir trois événements majeurs au milieu du film. D'abord, il est envoyé dans un camp militaire extrêmement dur, dans lequel il va subir de plein fouet la violence. Ensuite, son père disparaît. Et puis, il va rencontrer une jeune femme, Malika. Ça va être le début de sa renaissance, puisqu'elle va lui faire découvrir un monde, en fait, dont il n'avait aucune idée avant.
Oui, alors il y a cette phase militaire qui est très dure, mais qui lui permet aussi de réveiller le monstre qui est en lui. Ça, c'est quelque chose d'important, en tout cas dans l'histoire. C'est à ce moment-là où il commence un peu à s'affirmer. Il le fait par la violence.
Et puis viendra la Renaissance avec Malika.
Un peu la Renaissance.
Qui est jouée par l'actrice iranienne Zahramia.
Absolument. En tout cas, viendra un peu l'espoir.
Donc il y a un espoir possible.
Mais bien sûr.
Il y a une émancipation possible.
Oui, bien sûr. Il y a toujours. C'est pour ça qu'on fait des films. C'est pour dire aussi. C'est pas pour dire que tout est noir, mais pour dire aussi. Je pense qu'on met le doigt sur ce qui peut être conflictuel, sur la violence, voilà, sur des phénomènes de société. On en parle pour justement pouvoir un peu en parler comme on le fait maintenant.
Karim Moussaoui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Entretien signé Elisabeth Lequerré que vous retrouvez sur RFI.fr.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et Caroline Paré qui nous parle ce matin des violences physiques et de leurs conséquences sur la santé des enfants.
Professeur Céline Gréco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du premier centre d'appui à l'enfance en France, médecin, chef du centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Quand un enfant est victime de violences, au-delà du traumatisme psychologique, quelles peuvent être ses répercussions pour sa santé ?
En fait, si un enfant est victime de violences et qu'il n'est pas pris en charge précocement, si les violences sont répétitives, il va y avoir des conséquences sur sa santé somatique et psychique. Et on sait aujourd'hui que les enfants qui ont été victimes de violences vont déclencher un stress chronique qui devient toxique pour l'organisme. Et ces enfants vont présenter plus fréquemment qu'en population générale des maladies de type cardiovasculaire, du diabète, de l'asthme, de l'urticaire, puis à l'âge adulte des maladies auto-immunes. Et une fréquence plus importante de cancer. Donc ça a vraiment des conséquences dramatiques conduisant à la perte de 20 ans d'espérance de vie, d'où l'intérêt de ces nouveaux centres d'appui à l'enfance et d'une prise en charge très précoce.
Une prise en charge précoce avec des soins spécifiques ?
Avec des soins spécifiques, des soins somatiques, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein, c'est des enfants, parfois, quand ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas les vaccins à jour, qui ont des problèmes d'ouïe, d'audition. Vraiment une santé somatique à prendre en charge et puis surtout des soins psychiques à apporter, très experts dans le trauma complexe.
C'était Caroline Paré. On vous retrouve, Caroline, tout à l'heure dans Priorité Santé, comme tous les jours. Le journal sur la radio du monde, ce sera dans 3 minutes. Mais avant, un peu de musique avec la chanteuse française Jadanae, You and I sur RFI. Playlist d'RFI à découvrir sur RFI Musique. Une petite pause et puis ce sera le journal sur la radio du monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts,
Nathalie Amar.
Elle voulait à tout prix réaliser le rêve de son père, réunir pour un concert 4 Stradivarius. Mais l'ego des artistes va transformer ce rêve en cauchemar. La comédie Les Musiciens sort cette semaine sur les écrans en France. Grégory Magne, le réalisateur, et l'acteur principal, Frédéric Pierrot, seront avec nous.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Quel bilan donne RFI de l'insurrection de 1947 à Madagascar ? Derrière les chiffres, le travail des historiens malgaches comme français permet d'éclairer aujourd'hui un peu mieux les événements de cette grande révolte au cœur de la colonie française.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.